Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on va parler bataille électorale et élections européennes. Ça y est, tous les partis ont désigné la personne qui incarnera la campagne électorale et qui sera en tête de la liste pour le scrutin.
Oui, c'est notre premier sondage BVA Site pour RTL. Jordan Bardella est en tête à 30%, 12 points devant la candidate de la majorité présidentielle. Elle s'appelle Valérie Hayé. Elle est créditée donc de 18% d'intention de vote. Et à gauche, Raphaël Glucksmann est à 11%. La liste Europe Écologie Les Verts de Marie Toussaint est à 7 points, au même niveau que la France Insoumise de Manon Aubry. À droite, la liste de François-Xavier Bellamy des Républicains obtiendrait 8% des suffrages, tandis que Marion Maréchal est à 6 points pour la liste Reconquête.
Voici l'état des lieux des rapports de force, selon notre sondage RTL, à 3 mois des élections européennes. Alors je précise qu'il s'agit d'une photographie des intentions de vote à un instant T et que, évidemment, il ne s'agit pas de prédiction. Mais la particularité de ce scrutin, c'est la jeunesse des candidats qui vont être le plus exposés dans cette campagne. C'est une génération de trentenaires ou presque, et aujourd'hui je vous propose d'apprendre à les connaître. Et pour vous dresser leur portrait, j'accueille aujourd'hui dans ce studio de RTL ceux qui les suivent en déplacement et qui décortiquent toutes leurs prises de parole. Eh bien, c'est une partie du service politique de RTL. Avec moi, Marie-Bénédicte Allaire, qui décrypte l'actualité à gauche pour RTL. Bonjour Marie-Bénédicte.
Bonjour.
William Galibert, qui suit les tourments de la majorité. Bonjour William.
Salut Marie-Pierre.
Et Julien Fautra, qui analyse les tractations chez les Républicains, au Rassemblement National et aussi à Reconquête. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors je vais prendre l'ordre des intentions de vote dans notre sondage RTL et donc je commence avec toi. Jordan Bardella, 28 ans, ce n'est pas le plus jeune de cette campagne, on va en reparler tout à l'heure, et il y a quelques jours, le candidat tête de liste du RN était en meeting à Marseille.
Au fond, ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. Un grand effacement qui se traduit par le recul de la France chez elle, mais également en Europe et dans le monde.
Tu étais présent à ce meeting pour RTL, donc, et il semble vraiment inarrêtable, Jordan Bardella, dans cette campagne.
Non, pas inarrêtable. Alors certes, il y a un contexte qui est très favorable, on vient de l'entendre, pour le RN, les sondages sont très hauts, il a su créer une dynamique. Jordan Bardella, il est très populaire. Il est très populaire chez les jeunes, il est très populaire chez les moins jeunes. On a vu aussi des retraités, beaucoup, dans ce meeting. Il est en tête dans son parti des sondages de popularité devant Marine Le Pen. Et puis, il y a la nouveauté. Il y a un attrait, il y a une Bardella mania. C'est incontestable et on le voit dans ses journées selfies qu'il a fait au Salon de l'Agriculture. Il se passe quelque chose autour de sa personne, c'est clair.
Il intrigue, mais toi qui as pu le suivre sur le terrain, d'après toi, c'est quoi ses points forts et ses points faibles dans cette campagne?
Un sondeur nous disait il y a quelques jours, il y a une Bardella mania. Ses points forts, certes une forme d'aisance, ses points faibles, selon sondeur, creux dans ses réponses, un peu robotique. On n'a pas encore vu ses contradictions, il n'a pas encore été mis à rude épreuve. À mesure qu'il va s'exposer, il va forcément faire des erreurs. On l'a vu notamment sur les prix planchers, ça n'a pas été clair. Marine Le Pen a dû éclaircir lors de sa visite au Salon de l'Agriculture le surlendemain de celle de Jordan Bardella. Il va faire des erreurs, Jordan Bardella, à un moment ou à un autre.
Et c'est ça qui va un peu construire son personnage dans cette campagne. En tout cas, la majorité, elle, critique son bilan au Parlement européen.
Monsieur Bardella, Monsieur Selfie.
Monsieur Selfie, c'est comme ça que vous l'appelez ?
Ah oui, parce que c'est totalement creux. Il est d'une arrogance absolument incroyable. Il a déposé, sur toute la législature, 21 amendements. Voilà, tout ce qu'ils ont fait.
Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, c'était au micro de RTL. Cet argument, Julien, est-ce que ça fait douter l'entourage de Jordan Bardella ? Est-ce qu'ils se disent qu'une tête de liste qui a été peu présente au Parlement européen, bah, ça peut leur coûter l'élection,
non,
leur coûter des points ?
Pas du tout. Au RN, on s'enflamme pas du tout sur ce point, mais je reviens peut-être à la phrase d'avant d'Éric Dupond-Moretti. Monsieur Selfie, vous savez que les journées selfie ont été théorisées dans l'entourage de Jordan Bardella. C'est-à-dire que oui, on va aller faire une journée selfie. C'est complètement assumé dans une partie de son équipe. L'idée, c'est de créer, on me le dit comme ça, un rapport charnel avec les gens. C'est-à-dire que quand on fait un selfie, bah, on se touche.
Il y a une proximité.
On est joue contre joue. On entre dans le portable, dans l'intimité finalement de quelqu'un. Et c'est une façon de se rendre populaire, de se rendre proche des gens et, d'exister. Et finalement, avec une méthode un peu à la Chirac, l'époque n'est pas la même. On ne parlait pas de selfie et il n'y avait pas des smartphones dans la poche de tout le monde. Mais serrer la main, être proche des gens, prendre les gens par l'épaule, c'est une façon, j'allais dire, la façon 21e siècle de faire. Et ça, dans l'entourage de Jordan Bardella, on l'a complètement assumé.
On parle de la majorité. Valérie Hayet, tête de liste Renaissance, elle a 37 ans. Elle a 18% d'intention de vote dans notre sondage RTL. Écoutez.
Je suis avant tout une femme issue de la ruralité. C'est l'une de mes spécificités par rapport à beaucoup de mes concurrents. Moi, je veux pas qu'on oppose Europe et agriculture. La réalité, c'est que les agriculteurs français, ils ont besoin d'Europe.
William, est-ce que tu peux nous raconter son parcours ? Qui est-elle ?
Est-ce que tu connais les Kinder Surprise, Marie-Pierre ?
Oui, j'en raffole.
Bon, bah, Valérie Hayet, parce que c'est comme ça qu'on dit, et même la prononciation de son nom a fait preuve de débat. Paraît-il même qu'il faudrait dire Hayet. Valérie Hayet, c'est un peu un Kinder Surprise. De loin, on voit juste un œuf en chocolat. De loin, on voit juste une macroniste typique. Elle a ses petits tailleurs, elle a un sourire bright, façon Startup Nation. Elle est spécialiste de la fiscalité. C'est une bosseuse. Ce sont ces dossiers-là qu'elle a fait avancer en priorité au Parlement européen. Elle est élue européenne depuis quelques années. Et puis, en tout cas dans la vision macroniste, on veut cacher un petit œuf surprise à l'intérieur. Et ce petit œuf, chez Valérie Hayet, c'est la fille d'un couple d'agriculteurs. C'est une fille qui a les pieds encore plantés dans la réalité, qui vit encore en Mayenne, où ses parents avaient une exploitation. C'est une fille qui sait traire des vaches et qui connaît les problèmes des gens. C'est ce qu'on nous répète pour montrer cet aspect, cette double personnalité. La bosseuse, la diplômée, celle qui a fait ses classes à l'UDI, un parti centriste, celle qui a arraché la 19e place sur la liste européenne lors des dernières élections, qui s'est construite petit à petit, qui a accédé même au rang de patronne des députés européens macronistes quand Stéphane Séjourné a pris le Quai d'Orsay, et avec aussi cette image très proche des préoccupations, et en l'occurrence des préoccupations du moment, de la crise agricole, en nous disant, voilà, elle est compétente, elle sait ce qu'elle fait, et elle connaît les problèmes du terrain parce que c'est de là qu'elle vient. Comment on nous la présente.
Est-ce que tu sais si la question de l'âge a été un critère, parce qu'on sait que son adversaire principal, c'est Jordan Bardella, qui lui est très jeune, à 28 ans.
Oui, et on pourrait se dire, naturellement, les têtes d'affiche de cette élection sont jeunes, Jordan Bardella en premier lieu, donc c'était une volonté, un souhait assumé de mettre quelqu'un de jeune en face de lui, finalement ça a presque nuit à Valérie Hayet cet âge parce que au départ Emmanuel Macron il avait plutôt en tête quelqu'un de très expérimenté, il a même sondé ses proches, Jean-Yves Le Drian qui a 75 ou 76 ans lui a dit c'est gentil mais là je crois que je suis arrivé arrivé un petit peu au bout de ce que je pouvais donner en énergie. Dick Richard Ferrand, à un moment, a été approché. Bruno Le Maire aussi a été une personnalité possible pour assumer cette tête de liste. Et quand le nom de Valérie Hayet est rentré un petit peu dans l'atmosphère à la rentrée dernière, Emmanuel Macron, il a un petit peu tordu le nez en disant « Mouais, bon, on verra ». Et finalement, son choix s'est imposé. Et ce n'est pas lui faire injure que de dire que c'est un peu un choix par défaut. Parce que souvent, les premiers choix du patron d'Emmanuel Macron n'ont pas fait mouche. Les gens ont refusé. Et puis au bout d'un moment, il ne restait plus grand-chose à sortir du chapeau. Donc on a pris le profil le plus travailleur, avec l'image qu'on voulait donner dans le moment que l'on est en train de vivre. Et c'est comme ça que le choix s'est finalement porté sur elle.
Tu dis que c'est le choix du président, mais elle n'est pas très connue du grand public. Est-ce que selon toi, c'est un risque quand on sait déjà que les élections européennes, elles ont un peu du mal à rameuter en termes de participation ?
Alors oui, c'est un risque parce que là, très immédiatement, il faut l'identifier. C'est pour ça qu'elle fait la tournée des médias. On l'a vu aux 20h de TF1. On la voit un petit peu partout en ce moment. Il y a un premier meeting en fin de semaine, samedi, à Lille pour lancer cette campagne, juste pour que son visage s'imprime un peu dans la rétine des gens. Et en même temps, on n'est pas dupe, on sait très bien que cette élection, elle se fait aussi sous l'étiquette Emmanuel Macron et que la tête de liste bis, entre guillemets, ça sera Emmanuel Macron, tout comme Gabriel Attal pourra être une sorte d'incarnation de cette campagne. Donc finalement, Valérie Hayet, elle va avoir sa tête sur l'affiche, son nom sur les bulletins, encore que c'est peut-être même juste le nom de la liste Renaissance qui apparaîtra sur les bulletins, mais c'est une campagne qui sera faite à trois têtes, Valérie Hayet à Bruxelles, et puis le couple exécutif Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui n'hésiteront pas à s'impliquer dans cette campagne.
On parlait du Rassemblement National et de Jordan Bardella il y a quelques instants. On sait que la Macronie a toujours eu un peu une difficulté à trancher la stratégie. Est-ce qu'il faut aller sur les sujets du RN ou au contraire les combattre autrement? Est-ce que tu sais si là, pour les élections européennes, cette stratégie, elle est tranchée? Comment on fait pour ne pas se retrouver à un point d'écart avec le Rassemblement National?
On voit la difficulté en permanence à la trancher, puisque parfois, même le couple exécutif n'a pas les mêmes mots. Quand l'un dit que le Rassemblement National fait bien partie de l'arc républicain, parfois l'autre dit que non. Donc on voit cette difficulté à se positionner. Là, l'angle d'attaque qui a été choisi pour débuter cette campagne, il est assez clair. Le RN ne fait rien. On a entendu aussi Éric Dupond-Moretti appeler Jordan Bardella Monsieur Selfie. Ce n'est pas un travailleur. Il vous vend du vent, du sable, du rêve. Il ne bosse pas, il n'a rien fait au Parlement. Nous, peut-être que c'est moins spectaculaire, mais on agit, on est des techniciens, on sait faire et on sait faire bouger les choses, même si ça ne va pas assez vite. Donc c'est cet angle-là, en gros, un peu les bosseurs contre les fainéants ou les bosseurs contre les vendeurs de rêves, qui a été choisi pour le moment.
On passe au troisième homme de cette élection, c'est Raphaël Glucksmann, tête de liste pour le Parti Socialiste, et il est à 11% dans notre sondage.
On va avoir une vague d'extrême droite. Ouais. Quoi qu'il se passe, on va entrer dans une période de turbulence majeure. Et nos démocraties sont faibles et dirigées par des indolents et des impuissants. Et des gens sans conviction.
Bon, je triche un peu parce qu'on parle des trentenaires dans cet épisode, mais lui, il a 44 ans, il est un peu au-dessus de la limite. Mais c'est aussi important d'en parler pour bien comprendre les dynamiques à gauche. Marie-Bénédicte, est-ce que tu peux nous présenter Raphaël Glucksmann?
Il est député européen sortant, précédente tête de liste, hein, puisqu'il avait déjà conduit en 2019 la liste. Alors, c'est pas seulement pour l'EPS, c'est pour l'EPS et son mouvement à lui, son parti à lui, Place Publique, qui s'est fait connaître, qui s'est fait identifier sur des sujets concernant les droits de l'homme, notamment son combat pour les Ouïghours. Il s'est fait sa place au Parlement européen. Donc, il est très clairement identifié et puis il fait campagne. Il s'est un peu auto-désigné d'ailleurs, hein, avant que le PS décide qu'il allait se ranger derrière lui.
Oui, il n'y avait pas d'autres candidats envisagés par le PS.
Il n'y avait pas vraiment de candidat qui pouvait supplanter Raphaël Glucksmann. Donc, il a un peu préempté la tête de liste et il a forcé le destin et il l'a eu.
Marie-Bénédicte, comment ça se fait qu'il soit en tête à gauche?
On va voir si ça se confirme, mais il y a peut-être une espèce d'amorce de vote utile en faveur de Raphaël Glucksmann. Par exemple, il faut noter qu'il a reçu le soutien de Danny Cohn-Bendit et de José Bové, qui sont plutôt identifiés comme des écologistes au départ, enfin, même si Cohn-Bendit a soutenu Emmanuel Macron, mais c'est quand même la sphère écologiste et qui, normalement, aurait dû soutenir Marie Toussaint. Or, ils soutiennent Raphaël Glucksmann, peut-être, à cause de cette expérience qu'il a. En tout cas, ça va peut-être créer un effet vote utile. Et puis, peut-être aussi que dans son électorat, il agrège des gens qui avaient quitté le PS.
William, Valérie Hayé est à 18%, Raphaël Glucksmann et à 13, est-ce que la majorité se méfie de ce candidat?
Oui, il agrège pas seulement des gens qui avaient quitté le PS, mais pourquoi aujourd'hui Raphaël Glucksmann est considéré comme un grand danger par la campagne Renaissance, de la campagne d'Emmanuel Macron? Parce que dans leur sondage interne, ils ont vu que entre 10 et 15% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection 2022 disent « nous, on va voter Raphaël Glucksmann ». Et ça donne quoi? Ça donne des attaques qui ont déjà commencé dans ses premières interviews par Valérie Hayé contre Raphaël Glucksmann, en disant en tout cas, il serait beaucoup plus utile et il pourrait faire beaucoup plus de choses s'il était avec nous, dans notre camp. Et en gros, n'allez pas perdre votre voix auprès d'une tête de liste qui, même si elle fait un score honorable, n'aura pas le poids suffisant pour agir ensuite en Europe.
Ah oui, donc le match ne se joue pas seulement entre le Rassemblement National et Renaissance. Il y aura aussi un match dans le match entre Renaissance et Raphaël Glucksmann, par exemple.
Il est évident dans le camp Macron qu'on ne va pas aller convaincre des électeurs du Rassemblement National de venir chez eux comme par miracle. Donc, pour reconstituer son stock de voix et pour rester au moins au niveau qui avait été celui des dernières élections, il va falloir s'assurer qu'il n'y ait pas de dispersion des voix. Et on regarde comme ça très fortement du côté de chez Raphaël Glucksmann comme un danger, comme un peu un siphonneur de voix macroniste.
La droite, elle est, elle, à la quatrième position avec François-Xavier Bellamy qui incarne la campagne pour les Républicains.
Il faut aussi qu'on mette chacun devant ses responsabilités. C'est nous qui avons porté une barrière écologique pour filtrer ce qui est importé en Europe et mieux protéger notre marché. Et le RN, lui, il a voté contre ça. Tout le monde va vous faire des promesses. Tout le monde va vous faire des déclarations d'amour. Regardez qui a fait quoi. Quel est le bilan de chaque parti politique, de chacun des groupes.
François-Xavier Bellamy, 38 ans, lui aussi, il a déjà été candidat Les Républicains tête de liste pour la campagne des européennes en 2019. Il avait obtenu à l'époque 8,48% des votes. Là, il a 8% dans les sondages. Julien, pourquoi est-ce que Les Républicains ont décidé de remplir avec lui?
Ils ont cherché d'autres candidats. Ils sont arrivés à cette idée que François-Xavier Bellamy était la meilleure chance. La campagne de Bellamy, elle va porter sur le sérieux et sur le bilan. J'ai été me dit-il, très présent au Parlement européen, je n'ai fait que ça, vous pouvez regarder ce que j'ai voté, ce que j'ai pas voté, etc. Il se trouve quand même avec ce petit caillou dans sa chaussure d'être dans le même groupe qu'Ursula von der Leyen, que le RN fait monter comme étant la personne dont on ne veut pas. Et François-Xavier Bellamy est contre aussi, au sein du PPE, contre Ursula von der Leyen. Donc, il est sur une position qui n'est pas simple. Bellamy, en tout cas, il va faire une campagne sur son sérieux, sur son bilan. Est-ce qu'on fait une campagne sur un bilan ? Est-ce que ça a déjà fonctionné une campagne sur un bilan ? Chez LR, on pense que oui. On promet aussi qu'il y aura des propositions. On va voir la campagne, alors il y a encore 3 mois de campagne.
Alors je rebascule à gauche, il n'y a pas qu'un seul candidat, puisque l'alliance de gauche ne s'est pas faite pour ce scrutin. Marie Toussaint est la tête de liste écologiste avec 7% d'intention de vote.
Aujourd'hui, le gouvernement, quand il y a une difficulté économique ou sociale, il répond en tirant sur l'écologie. Ça a été l'abandon du plan Ecophyto, l'abandon du NODU. Ça a été le renouvellement du glyphosate pour 10 ans.
Elle a 36 ans, c'est sa première campagne en tant que tête de liste, je précise. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son parcours politique ?
Alors Marie Toussaint, c'est une vraie militante. Elle est rentrée chez les Verts, elle avait 18 ans. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu social plutôt modeste. Enfin, ses parents étaient des ouvriers et du coup, elle a une fibre très sociale, ce qu'on ne voit pas toujours chez les écolos. Donc, elle a cette double casquette de défendre des mesures sociales et puis de défendre le climat, la planète. Elle s'est aussi fait connaître parce qu'elle a pris la tête de l'affaire du siècle. C'est une initiative de l'ONG Notre Affaire à Tous pour faire condamner la France pour inaction climatique. Et ça a marché d'ailleurs, puisqu'en 2021, l'État français a été condamné pour inaction climatique, même si après, il y a eu un appel et que ce n'est pas terminé. Mais en tout cas, c'est elle qui a pris ce combat et qui s'est fait connaître comme ça. Mais à la base, c'est vraiment une militante de terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'elle a été désignée par les écologistes comme candidate.
Oui, parce qu'on sait que les élections européennes, elles sont quand même assez favorables aux écologistes. En 2019, Yannick Jadot avait obtenu plus de 13% et c'était à l'époque la surprise. En interne, justement, chez les écolos, est-ce qu'on est déçu de voir que là, dans les sondages, même si c'est juste un instant T et que ce n'est pas une prédiction, ça plafonne à 7%?
Alors, tu sais, les écolos, ils disent toujours, enfin, en tout cas, Jadot dit toujours ça. La dernière fois, c'était pareil. À une semaine du scrutin, on nous prédisait un score minable et puis finalement, on a créé la surprise à 13,5, on a été la troisième liste, etc. C'est vrai que là, le score que lui prêtent les sondages en ce moment, il est décevant parce qu'elle fait jeu égal avec Manon Aubry,
oui.
Alors qu'elle aurait tout pour justement être plus haut. Peut-être qu'elle va monter dans les dernières semaines.
Il y a une difficulté qui a été soulignée, c'est aussi la place des écologistes dans la crise agricole. Ils n'ont pas réussi vraiment à faire entendre leur voix là-dessus.
Les vents sont sans doute moins porteurs qu'en 2019, effectivement. Il y a la crise agricole, il y a la guerre en Ukraine, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'effectivement, l'écologie est moins porteuse qu'il y a 5 ans de ça.
Tu le disais, elle arrive ex aequo avec Manon Aubry, donc tête de liste de la France Insoumise.
Emmanuel Macron, comme Jordan Bardella, refuse de toucher au pactole des agro-industries. Ce sont en réalité les Dupont et Dupont quand il s'agit de voter ensemble la politique agricole commune.
On continue avec nos trentenaires. Manon Aubry, 34 ans. Elle, c'est sa deuxième campagne en tant que tête de liste pour les européennes. Et quelle est l'ambiance à la France Insoumise avec ces élections européennes ?
Il n'y a pas vraiment de campagne pour l'instant.
On sent qu'il n'y a pas de dynamique.
Il
n'y
a pas de campagne. Ça va commencer sans doute mi-mars, là, puisqu'il va y avoir une convention pour lancer la campagne des européennes. Mais comme tu sais, ils ont très longtemps voulu croire qu'ils allaient réussir à faire l'union. Ils avaient d'ailleurs proposé à Marie Toussaint d'être la tête de liste, parce qu'elle a un profil qui finalement pourrait convenir aux insoumis.
Ouais.
Et puis, les militants écologistes avaient décidé à 86%, je crois, il y a quelques mois, qu'ils iraient tout seuls. Donc, leur dirigeant, Marine Tondelier en tête, a dit non. Et du coup, il n'y a pas eu de liste unique. Les insoumis, pour l'instant, ils sont un peu ronchons, un peu dans l'attente, parce que le scrutin européen ne leur a pas été favorable la dernière fois. Manon Aubry, elle avait fait un score de 6%, je crois, avec 6 élus. Ils étaient tombés de haut après le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Et du coup, bah, ils ont du mal à rentrer dans cette campagne. Ils se disent que de toute façon, ce n'est pas la peine de partir trop tôt.
Est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir réussi à faire une candidature commune? Est-ce que ça peut expliquer le fait que, bah, voilà, ils ne s'engagent toujours pas dans cette campagne?
Oui, très certainement. Enfin, ils pensaient que le rouleau compresseur allait suffire pour
et de voir aussi le PS devant eux dans les sondages, peut-être.
Oui, sans doute. Je pense qu'ils se disaient que la seule façon pour eux de faire un bon score, c'était effectivement d'avoir une liste unique et d'emmener tout le monde sur le modèle de la NUPES aux législatives. D'ailleurs, là aussi, Manon Aubry, elle a un peu pris les devants pour être sûre que ça soit elle qui soit désignée, en disant qu'elle était disponible. Bon, finalement, c'est elle qui va être désignée, mais ça suscite pas un enthousiasme délirant, sa candidature comme tête de liste.
Juste derrière, il y a Reconquête, le parti d'Éric Zemmour avec Marion Maréchal.
Je conduirai cette liste et je tiens d'ailleurs à remercier Éric Zemmour pour sa confiance. Je suis heureuse de travailler avec lui en complémentarité, lui qui sera notre candidat naturel bien sûr pour les élections de 2027.
Marion Maréchal, elle est tête de liste Reconquête, elle a 34 ans, elle est créditée elle de 6% d'intention de vote dans notre sondage. Et Julien, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un paradoxe autour de sa candidature? Parce qu'elle, elle est très identifiée au sein de l'opinion publique, mais pourtant bah, elle n'est qu'à 6% dans les sondages.
Elle décolle pas à ce stade. Dans son entourage, on m'explique qu'elle fait une bonne campagne, ils n'ont pas les temps de parole extensibles que peuvent avoir les principaux partis, que ce soit chez Renaissance ou au RN. Donc on dit, bah, avec le temps de parole qu'on a, on arrive à bien faire notre campagne. Elle est identifiée, bah, c'était déjà un objectif de ce début de campagne. Après, Marion Maréchal, elle n'est plus la nouveauté. La nouveauté, c'est Jordan Bardella. Et c'est vrai qu'elle, je pense qu'elle souffre de cette comparaison. D'ailleurs, ils ne s'attaquent pas l'un et l'autre parce qu'il y a probablement une proximité intellectuelle. En tout cas, ils ne s'attaquent jamais. Il y a une forme de proximité. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est Bardella. Ce n'est pas Marion Maréchal.
On sait que chaque point de pourcentage va être extrêmement important. Pour 2019, Renaissance est arrivée en tête, mais avec seulement un point de différence avec le Rassemblement National. Est-ce que, par exemple, Marion Maréchal, avec ses 6%, si effectivement c'est ce score après l'élection, elle peut faire du tort au Rassemblement National ou même aux Républicains et baisser leur score?
Chez Reconquête, on a un objectif, on a une proie, j'allais dire. Cette proie, c'est les électeurs, vous les appelez comme vous voulez, RPR, UMP ou les Républicains aussi. Au RN, on a une proie, ce sont ces mêmes électeurs. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron ou dans la Macronie, on a une proie.
Ce sont ces électeurs.
Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, c'est François-Xavier Bellamy et ce sont les Républicains qui sont attaqués de toutes parts et qui vont devoir réussir à conserver cet électorat. Mais Marion Maréchal, elle essaie de les convaincre. Éric Zemmour, il essaie de les convaincre. Il y a beaucoup de partis, ils sont très nombreux à finalement être sur ce créneau-là aujourd'hui.
Et enfin, je voudrais qu'on discute ensemble de la candidature des communistes.
Moi, j'ai 27 ans et je le dis très clairement. Très clairement. Je ne veux pas aller au front. Je ne veux pas faire partie d'une nouvelle génération sacrifiée.
Donc Léon Desfontaines, il a 27 ans, il a 3% dans notre sondage. Eh bien, qui est-il, Marie-Bénédicte? Parce qu'on l'avait déjà vu émerger à l'époque de la présidentielle en 2022, mais on ne le connaît pas encore très bien.
Alors, c'est un peu le petit frère de Fabien Roussel. C'est un proche de Fabien Roussel, Léon Desfontaines. Il est élu, lui, de la Somme, donc pas très loin de Fabien Roussel. Il est aussi adepte des bonnes formules. Il a les mêmes combats que Fabien Roussel sur les insoumis. Il mâche pas ses mots contre eux. Et effectivement, il était son porte-parole pour la présidentielle. C'est comme ça qu'il a émergé. On va dire que c'est le novice de la bande en matière d'élections européennes, mais pas en politique, puisqu'il a été le patron des jeunes communistes. Et donc, il n'est pas né de la dernière pluie non plus. Il a une solide formation politique, une solide formation militante.
Et comment ça se passe, les communistes, justement, avec le reste de la gauche? Comment s'est fait un peu leur candidature? C'était évident qu'ils allaient faire bande à part?
Oui, c'était assez évident, parce que tant que Fabien Roussel dirige le Parti communiste, s'affirmeront toujours. Puis, ils ne voulaient pas d'une liste unique avec la France insoumise. Ils sont vraiment comme chien et chat depuis la dernière présidentielle. Donc, ils ne voulaient pas d'une liste unique et c'était évident qu'ils allaient partir de leur côté, même si c'est une élection qui est très dure pour eux. Parce que la dernière fois, Yann Brossat à la tête de liste, qui est pourtant quelqu'un qui est identifié médiatiquement, etc., n'avait fait que 2,5% des voix, donc pas de candidat. Et là, les sondages ne sont pas très, très optimistes. vis-à-vis de Léon Desfontaines. Donc il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose d'incroyable pour qu'il arrive à dépasser la barre des 5%.
J'ai une dernière question pour vous trois. Alors on a parlé des têtes de liste, on les connaît un peu mieux maintenant grâce à vous. Mais est-ce que les stars, je mets des guillemets, des partis vont aussi s'investir dans cette campagne? Par exemple, William Emmanuel Macron, tu le disais un peu tout à l'heure, oui, mais est-ce que c'est prévu de faire par exemple des meetings ou qu'il ait des prises de parole ou que sa tête soit sur l'affiche par exemple?
En tout cas, il va essayer de tirer des leçons de la dernière élection, des dernières élections européennes. Le schéma était un petit peu le même. La tête de liste était Nathalie Loiseau, élue européenne, puis ministre, pas du tout identifiée du grand public. Sans lui faire trop d'injures, on ne peut pas dire qu'elle faisait des étincelles en expression publique ou en débat ou médiatiquement. Et là, bon, on a un profil avec Valérie Ayé qui se rapproche un petit peu. Emmanuel Macron, la dernière fois, il s'était engagé très très tardivement dans la campagne. Il avait dû même improviser un appel depuis un déplacement en Roumanie dans les derniers jours avant le vote pour remobiliser les troupes. Et là, je crois que l'Élysée a appris des erreurs de la dernière fois. Il est probable qu'on va voir un Emmanuel Macron beaucoup plus engagé dans cette campagne. Est-ce qu'il pourrait se rendre à un meeting ? Rien ne l'interdit, rien ne l'empêche, c'est ce qu'on nous répond à l'Élysée, en nous rappelant que Nicolas Sarkozy, en son temps, en 2009, avait lui aussi mis la main à la pâte et avait pris la parole, ou en tout cas s'était rendu à des meetings. Donc oui, c'est possible. Et puis on va aussi voir Gabriel Attal fortement s'impliquer dans cette campagne. Ça sera clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, trois têtes d'affiche pour une seule liste Renaissance et Macroniste lors de ces européennes.
Et Jean-Luc Mélenchon, Marie-Bénédicte?
Alors Jean-Luc Mélenchon, il me semble qu'il va attendre un peu de voir comment les choses tournent. Jean-Luc Mélenchon, il fait de toute façon des meetings tous les mois et demi à peu près. Il en a fait un à Rennes en décembre, il en a fait un à Belfort là au mois de février. Mais sur sa personne, c'est-à-dire qu'il va chez un député et puis en fait les gens viennent pour voir lui Jean-Luc Mélenchon. De là, s'engager dans la campagne de Manon Aubry, il l'avait fait la dernière fois. Il avait été très déçu par le résultat. Donc là, je pense qu'il va être un petit peu prudent au début.
Est-ce que Marine Le Pen, on va la voir s'impliquer, oui, davantage dans la campagne, mmh, pour venir soutenir Jordan Bardella?
Alors, il y a deux choses. Un, on a appris lors du meeting à Marseille qu'elle se mettait en fin de liste. Alors, elle ne sera pas élue, mais c'est une façon pour elle d'être sur la liste et de s'impliquer. Donc, elle va tenir des discours. Et parfois, ils vont tenir des discours à deux. Le 1er mai à Paris. On a bien compris, en revanche, dans son discours, que l'agenda de Marine Le Pen, ce ne sont pas les élections européennes. Son agenda, c'est 2027, c'est la présidentielle. Et dans l'organisation de ce qu'on va dire lors des discours, de pas dire la même chose, Jordan Bardella d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, c'est que Marine Le Pen, elle va se projeter sur 2027 et elle va volontairement ne pas rentrer dans les polémiques des européennes, mais bien se placer en surplomb, en s'imaginant présidente de la République.
Merci à tous les trois, Marie-Bénédicte Allaire, Julien Fautra et William Galibert. Cet épisode de Focus est réalisé par Jean Derieux et Thomas G. Vous pouvez écouter tous les épisodes, les noter et nous laisser évidemment des commentaires, que ce soit sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.